eu la majorité des votes. Mais ce n'est pas 100% de Gaza. Gaza est un territoire où habitent des Palestiniens. Et on va faire nos mensonges israéliens. Et comment vous dire, la manipulation des médias fait que il a donné l'impression à la plupart des citoyens du monde qu'eux, ils luttent contre tous les gens de Gaza parce qu'ils sont tous Hamas. Non, ils ne sont pas. Moins d'un tiers est Hamas. Et à mon avis, beaucoup ont changé d'avis parce que le prix à payer est trop cher. Mais la vérité, c'est qu'ils font la guerre aux Palestiniens. Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Ils ont démoli déjà le camp de réfugiés de Jenin. Ils ont continué sur Tul Karem et sur Balata. Et je pense que ce qui se passe avec ce gouvernement israélien, qui est le plus radical qu'on a jamais vu depuis 1948, c'est qu'ils veulent la terre, mais sans la population. Je pense que la vraie raison de tout ce que vous voyez depuis 2 ans, c'est de faire partir les gens d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent de dire qu'ils vont augmenter les attaques et démolir encore plus à Gaza. Pourquoi est-ce qu'ils bombardent les maisons bombardées? Pourquoi est-ce qu'ils tuent, ils envoient les réfugiés en leur disant « allez au sud et au sud », ils les bombardent. Parce qu'ils veulent vider, ça s'appelle du nettoyage ethnique. Et ils font du nettoyage ethnique pour récupérer la terre, mais sans la population.
Didier Leroy, j'aimerais vous faire réagir à cette association que l'on fait souvent entre le Hamas et les Palestiniens aujourd'hui. Est-ce que la différence est si claire? C'est vrai que c'était 30% à Gaza en 2006, mais les choses ont changé depuis. On sait que ce mouvement a gagné en importance. On sait que c'est un mouvement multiforme, qui a une partie qui est politique, hein, et c'est un parti qui a été élu. On sait que c'est par ailleurs une organisation terroriste. C'est comme ça que l'Europe l'a définie. Aujourd'hui, quelle est l'association qu'on peut faire entre le mot Palestine et le mot Hamas?
Je dirais que cette série de reconnaissances n'est aucunement associable à une main tendue vers le Hamas. Le Hamas est isolé sur le plan international comme jamais. Il a été lâché par la Ligue arabe elle-même. Donc, oui, ils sont à l'initiative de ce nouveau contexte moyen-oriental post 7 octobre, mais ils ne feront pas partie de la gestion de Gaza demain.
Les États arabes eux-mêmes s'engagent à ce que ce ne soit pas le cas.
C'est très clair. En même temps, l'action militaire d'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie a pour effet de neutraliser le Hamas tel qu'on l'a connu d'un point de vue structurel ces dernières décennies, mais en même temps créer la forme de radicalisation de demain aussi. Donc ils auront face à eux quelque chose de pire que le Hamas. C'est mécaniquement amorcé. Mais en attendant, ce ne seront plus les mêmes drapeaux, plus les mêmes leaders, le même lexique qui sera nécessairement brandi face à eux.
Pierre Dargent, reconnaître la Palestine, c'est aussi tenter de sauver la solution à deux États, la replacer comme un horizon?
Certainement. Et comme on le voit, les masques tombent. Le gouvernement Netanyahou dit désormais ouvertement qu'il ne veut pas une solution à deux États, alors que depuis les accords d'Oslo de 1993, c'est ce à quoi la communauté internationale tendait. C'est certainement une manière de résister à cette politique israélienne qui est... il faut le constater, une politique de conquête. La guerre à Gaza, au début, était une guerre de défense pour démanteler un groupe terroriste qui avait fait plus d'un millier de victimes dans des conditions atroces. La sympathie du monde entier a été acquise à Israël à ce moment-là. Et depuis 2 ans et demi, on voit graduellement l'objectif militaire changer et politique changer radicalement. Ce n'est plus une guerre de défense, c'est devenu une guerre de destruction et de conquête. Il faut très clairement le dire. Et le discours qui consiste à dire que la reconnaissance va être une prime pour le Hamas, on l'a dit à suffisance, c'est un mensonge. Je pense que c'est évidemment de la propagande du gouvernement Netanyahou, mais répéter cela ici, c'est ne pas voir la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est qu'on a un gouvernement qui est effectivement engagé, non pas dans une volonté de coexistence, même pas de coexistence de deux peuples au sein d'un même État, mais comme on vient de le dire, très probablement de vie non pas séparés côte à côte, parce que la solution à deux États, c'est ça, c'est pour vivre ensemble, vivant séparément, c'est un modèle social élémentaire qu'on a mis en œuvre en Europe depuis la guerre de 30 ans. et qu'on pense, nous, les Européens et le reste du monde, susceptibles d'offrir une solution à ces peuples-là. Mais en fait, actuellement, on est dans une situation où ni les autorités israéliennes, ni, il reste encore évidemment l'autorité palestinienne qui souhaite cette solution à deux États, mais les plus radicaux, et il y aura sans doute de la radicalisation à prévoir à l'avenir à cause des opérations militaires, ni les plus radicaux actuellement en Palestine souhaitent cette solution.
C'est une question importante, parce que est-ce qu'on veut d'un État palestinien en Palestine ?
Alors la communauté internationale veut d'un État palestinien. La
oui,
communauté internationale.
Mais en Palestine, est-ce qu'on en veut ?
Mais écoute, oui.
Alors, Leroy.
Tout dépend ce que recouvre l'expression « les Palestiniens ». Il y a tout et son contraire. Donc il y a surtout des gens qui, à mon avis, sont acculés, désespérés, voire enragés, du côté des deux enclaves. Donc toute perspective d'un État palestinien, même sur une portion congrue du territoire total de la Palestine mandataire initiale, est une bonne perspective. Donc c'est quand même sur base de cela qu'il faut commencer à négocier. Mais il faut évidemment avoir à la table des négociations des gens qui sont prédisposés à négocier des deux côtés. Or, le Hamas, d'un côté, fait plus partie du problème que de la solution, on le sait, mais le gouvernement Netanyahou aussi.
En effet, dans les circonstances actuelles. Raoul Delcorne, on voit cette, je ne vais pas dire unanimité à l'ONU, parce qu'on est loin d'une unanimité, et on sait qu'au sein du Conseil de sécurité, il y a évidemment le blocage américain par rapport à cette solution à deux États et à cette reconnaissance palestinienne. Mais quand on voit que plus de 150 États aujourd'hui reconnaissent la Palestine, réaffirment dans la déclaration de New York l'ambition de cette solution à deux États, on est frappé en fait par le contraste entre ce qui se dit là dans l'Assemblée de l'ONU et la situation sur le terrain.
Sans doute, mais probablement ce soir 158 États, 4 membres permanents du Conseil de sécurité sur 5.
La Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne.
Et aussi, c'est important de le souligner, l'initiative a réuni l'ensemble du monde arabe, et on sait combien à un certain moment le monde arabe hésitait. Or le monde arabe, puisqu'on a fait allusion tout à l'heure à l'allié américain d'Israël, c'est un élément tout à fait important. Longtemps, les Américains ont voulu réconcilier les Arabes et les Israéliens, précisément les accords d'Abraham. Donc, oui, pour répondre à votre question, c'est une dynamique qui a connu et qui connaît un réel succès. Sur le terrain, vous allez me dire, ça ne va rien changer. C'est du symbolique. Mais à partir du moment où vous reconnaissez un territoire, prenez une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais à partir du moment où le Kosovo a été reconnu comme étant indépendant de la Serbie, quand bien même la Serbie, la Russie et quelques autres États ne reconnaissent pas le Kosovo aujourd'hui, et qui n'est pas membre de l'ONU, le Kosovo existe, ses droits sont respectés. Donc on a passé une étape. On va sans doute passer une étape. Dernier élément qui est important, qui n'a pas encore été mentionné ici, peut-être le ferez-vous, attention, on reconnaît un État sur lequel sont implantés 700 000 colons israéliens. Et ça, c'est compliqué. Vont-ils se retirer ?
Évidemment, on va en parler de la question des colonies, puisqu'elle est fondamentale. C'est vrai qu'on est frappé par ce contraste, Louis-Michel, aujourd'hui, entre le message qui est délivré partout dans le monde, que ce soit dans la rue, par les gouvernements, et cette résistance israélienne avec l'allié américain. Et on a ce sentiment d'impuissance, parce que c'est vrai qu'on parle d'isolement, on a l'impression qu'on est peut-être dans un moment de basculement, et en même temps, on a devant nous un obstacle gigantesque.
Oui, mais je veux rebondir sur ce que M. l'ambassadeur a dit. Il a évidemment raison, il a donné un argument très fort. À partir du moment où on est un État, le peuple de cet État peut à nouveau rêver. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus rêver de rien du tout. C'est le cauchemar. Et à partir du moment où vous êtes un État, on peut aussi tenter, les dirigeants de cet État, les tenter de devenir vertueux. Ça peut aider aussi. Et d'offrir une vraie perspective humaine aux gens, au peuple. On peut imaginer, par exemple, à partir du moment où un État est reconnu, on peut imaginer un grand programme international au niveau des infrastructures, au niveau de l'éducation, au niveau économique. Je me rappelle, je me souviens avoir rencontré Shimon Peres plusieurs fois. C'était une obsession de Shimon Peres, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Israël, et qui était vraiment focalisé sur l'idée vous, Européens, aidez-nous à aider les Palestiniens à s'assumer, à avoir un développement économique, à avoir un développement humain, à avoir un développement social au niveau de l'habitat, etc. Il avait un vrai projet là-dessus. Et il était animé sincèrement de ça. Et donc, je pense qu'à partir du moment où une masse de pays de l'ONU reconnaissent cet État, je pense qu'on ouvre une perspective totalement différente de ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont pas de perspective. Ce qui est évidemment, ce que je voudrais quand même épingler dans le débat ici, c'est que l'initiative pour retourner vers une dynamique vertueuse, elle ne peut venir aujourd'hui que d'Israël, mais pas nécessairement de Netanyahou. Il y a toute une série d'acteurs israéliens, et non des moindres.
Vous pensez à quels acteurs ?
Je pense notamment à ce que je pense que vous avez eu un contact avec Stéphane
Weskop, que l'on entendra tout à l'heure.
Moi aussi, j'ai rencontré. C'est quand même un groupement qui rassemble plus de 500 anciens commandants, des colonels, des diplomates. Mmh. C'est quand même pas rien, des représentants de tous les corps sécuritaires.
On l'entendra tout à l'heure. Et ce à quoi vous faites allusion, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans les forces de sécurité israéliennes elles-mêmes, on ne partage pas tout à fait la vision du gouvernement
israélien. Au niveau de l'armée israélienne, c'est beaucoup moins solidaire de la dynamique ou de la stratégie Netanyahou qu'on imagine ou qu'on laisse croire. Il y en a d'autres. Moi, je me souviens avoir, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, vous vous en souvenez certainement, nous avons financé le fameux groupe qui cherchait un accord entre d'anciens militaires et les gens d'Arafat. Ils avaient été arrivés. Il y avait d'ailleurs un résultat, on avait financé ça, mon département avait financé ça pour leur réunion à Genève, etc. Il y avait un accord complet. Donc je veux dire que moi j'ai l'impression, c'est peut-être parce que je suis un pratiquant et je crois fort dans l'optimisme de la volonté, et je pense que c'est ça qu'il faut, je pense que la société civile israélienne, celle qui est la plus représentative, elle a en elle l'énergie, la conviction, la force de persuasion, et nous devons les aider à véhiculer cette foi-là dans tout au niveau de toutes les grandes sphères décisionnelles du monde.
C'est-à-dire,
je pense qu'elle
en
a la capacité.
On voit quand même qu'aujourd'hui en Israël, à peu près tous les partis s'opposent à ce qui est en train de se passer à l'ONU.
Oui, mais ça veut dire que Netanyahou est occupé à manœuvrer sans avoir, on peut tenir le pari, sans avoir le moindre majorité démocratique pour le faire. Alors il utilise les circonstances évidemment pour s'arroger une forme d'autocratie absolument détestable, il faut le dire, mais je me souviens par exemple Yossi Beilin, avec qui j'ai encore gardé longtemps des contacts, qui était l'ancien ministre de la Justice d'Israël, c'est un homme remarquable, il continue à se battre, donc il est sur la même ligne que les commandants pour la sécurité d'Israël, et donc il existe quand même une représentativité israélienne qui peut amener à forcer le débat d'abord en Israël, parce que tout compte fait, Israël détient aujourd'hui les seuls moyens de la sécurité dans toute la région. Et donc, ils ne doivent pas avoir peur. Et donc, on fait rayonner une peur qui n'est pas infondée, mais qui est quand même beaucoup plus gérable qu'on ne le laisse croire.
Et puisque vous mentionnez Stéphane Weskop, on va peut-être l'écouter. Stéphane Weskop, représentant en Europe du CIS, les commandants pour la sécurité d'Israël, porte-parole de 550 généraux à la retraite, généraux de l'armée, durant enseignement intérieur, le Shin Bet, du Mossad, de la police. Il explique pourquoi, aux yeux d'une large majorité des anciens hauts responsables israéliens, la solution à deux États est la seule possible pour garantir précisément la sécurité d'Israël. On écoute Stéphane Weskop.
À nos yeux, il n'y a qu'une solution, et c'est la solution à deux États, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'entre la Méditerranée et le Jourdain, il y a 14 millions d'habitants, 7 millions de Juifs, 7 millions d'Arabes. Il y a deux possibilités. Soit vous avez deux États côte à côte souverains, soit vous avez un État. S'il y a un État, il y a deux scénarios possibles. Dans le premier scénario, les Palestiniens jouissent des mêmes droits que les Israéliens, dont le droit de vote. Et très vite, par le jeu de la démographie, l'État d'Israël devient le 23e État arabe de la région et c'est la fin du rêve sioniste. Deuxième scénario, les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens, n'ont pas le droit de vote et donc continuent leur lutte pour les obtenir. Et dans ce cas de figure, l'État d'Israël ne sera ni sécurisé ni démocratique et ce sera donc également la fin du rêve sioniste. Donc la solution à deux États permet d'une part aux Palestiniens d'exercer leur droit à l'autodétermination et d'autre part permet aux Israéliens de préserver leur État comme un État démocratique, sécurisé et à forte majorité juive. Il y a une deuxième raison pour laquelle la solution à deux États est non seulement souhaitable mais indispensable et elle est liée à la sécurité et à la prospérité du pays. La plupart des gens ignorent que l'État d'Israël est un État minuscule. Si on prend la superficie du pays, elle est plus petite que la superficie de la Sardaigne en Italie. Si vous prenez la superficie de tous les États arabes qui entourent Israël, elle est 650 fois plus grande. Et je n'inclus pas la superficie de l'Iran qui est 74 fois plus grande qu'Israël. Si vous prenez la démographie, on a 350 millions d'Arabes, 90 millions d'Iraniens et moins de 10 millions d'Israéliens. Donc là aussi, de deux choses l'une, soit on va vers la paix régionale dans un Moyen-Orient apaisé au sein duquel Israël pourrait être un phare dans le domaine de la technologie, des sciences, de la médecine, de l'eau, de la sécurité, soit on va vers le conflit permanent.
Un plaidoyer clair pour la solution à deux États de la part donc de ces 550 généraux à la retraite. Comment expliquer que ce soit à ce point en décalage avec ce que dit le gouvernement israélien actuel ? Voici la réponse du CIS.
Le décalage est même aujourd'hui entre le gouvernement et les autorités de sécurité actuelles. Si vous prenez l'attaque sur Doha, elle était faite contre l'avis du Mossad. Si vous prenez l'attaque contre Gaza City, elle est faite contre l'avis de l'armée. Mais le décalage s'explique très facilement. Il y a au sein du gouvernement des représentants d'un mouvement qu'on appelle le mouvement sioniste religieux, qui considère que la terre d'Israël, qui couvre l'ensemble de Israël, Gaza et la Cisjordanie appartient au peuple juif et dans leur esprit il est absolument impossible de céder le moindre centimètre carré. Donc avec ce gouvernement-ci, tant que ce mouvement-là est dans le gouvernement, il sera impossible d'avancer vers une solution négociée.
Quand vous entendez Benjamin Netanyahou parler de super Sparte, ça vous inspire quoi ?
C'est effrayant. En plus, ça ne lui ressemble pas, parce que dans un passé pas si lointain, Netanyahou était un homme plutôt prudent. C'est effrayant parce qu'Israël ne peut pas vivre comme Sparte. Israël n'est pas les États-Unis. Israël est un État minuscule, comme je l'ai dit. Israël a besoin de la communauté internationale. Israël fait des échanges avec tout le monde tout le temps. Les Israéliens voyagent tout le temps. Donc ça ne correspond pas à la réalité du pays.
Est-ce que Benjamin Netanyahou est en train de faire d'Israël un État paria ?
Il suffit de lire l'actualité pour le savoir. Même si c'est à de nombreux égards très injuste, c'est la réalité qui est en train d'émerger, oui.
Vous en souffrez, vous ?
Bien sûr. Tout le monde en souffre, les Israéliens les premiers d'ailleurs.
J'aimerais vous faire réagir, Didier Leroy, à ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est une voie que vous considérez comme isolée en Israël ou est-ce que c'est une voie à laquelle se rallient aujourd'hui, d'après ce que vous savez, beaucoup d'Israéliens ?
Alors, la société israélienne est extrêmement composite, hein, diversifiée, donc voilà. J'espère me tromper, mais je pense que malheureusement, ce genre de voie devient de plus en plus rare. Et je me fie surtout à un élément d'analyse pour ça, c'est justement Benjamin Netanyahou, qui est un fin calculateur politique. Sa résilience est édifiante à ce niveau-là. Est en campagne électorale et pour séduire un paysage politique qui s'est radicalisé et qui en plus est en effet gangréné par le sionisme religieux dans toute sa dimension messianique, parle, et je reprends les termes de ces médias israéliens de droite, c'est il parle désormais israélien. Il ne parle plus, sous-entendu, hébreu, il parle israélien, ça veut dire le langage de la force. Évidemment, il ne va pas se faire réélire sur base d'arguments économiques ou diplomatiques, vu la situation qu'on vient d'explorer. Donc tout ce qu'il va mettre en avant, et ça va se traduire sur les différents théâtres d'opération de la région dans les prochains mois, il va essayer de continuer de glaner des victoires militaires pour se
présenté comme Monsieur Sécurité par excellence, et ça, ça a toujours fonctionné lors des élections israéliennes.
Mmh. Et Vous rappelez que les prochaines élections israéliennes, c'est en octobre 2026.
Voilà.
Et donc, votre hypothèse est que jusque-là, des attaques vont se multiplier. Ça veut dire, par exemple, possiblement de nouvelles attaques sur l'Iran, parce qu'on sait que ces attaques, enfin les attaques précédentes, sont arrivées précisément au moment où on a commencé à parler de reconnaissance de l'État palestinien ici en Europe, etc.
Alors, Benjamin Netanyahou et son équipe, hein, puisqu'il n'est pas seul, hein, c'est tout son cabinet et une grande partie de la population israélienne qui est derrière, va sans doute s'évertuer à multiplier les diversions, générer des écrans de fumée pour mettre un petit peu sous le tapis la situation à Gaza et en Cisjordanie qui émeut la planète. Ils vont continuer donc à souffler le chaud et le froid en Syrie, au Liban, continuer à taper régulièrement sur le Yémen en fonction de la poursuite des tirs qui émanent de là-bas.
Et surtout, au Yémen, essayer... les outils font partie de cet axe de résistance, voilà. Tout ça ainsi nommé, avec l'Iran, les outils, le Hezbollah.
Exactement. Et ce que Benjamin Netanyahu voudra surtout avoir atteint avant l'octobre 2026, c'est une véritable bascule en Iran. Ça, c'est l'atout qu'il espère avoir dans sa manche d'ici là.
Et c'est la diversion que vous prévoyez. J'aimerais, avant de poursuivre ce débat, qu'on fasse quand même un petit peu d'histoire, parce qu'on parle aujourd'hui de solutions à deux États. C'est évidemment une solution dont on parle depuis bien longtemps. La création de deux États distincts, l'un juif, l'autre arabe, elle a été imaginée par les Britanniques en 1937. Depuis, c'est une longue succession d'espoirs et d'échecs, comme nous le rappelle ici Pascal Bustamante avec Marine Pascal.
L'arrivée de colons juifs issus d'Europe et de Russie, où ils devaient faire face à de nombreuses persécutions, a débuté dès la fin du 19e siècle. Ce sont les débuts du sionisme. À la disparition de l'Empire ottoman, le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, rédige une lettre. Il se montre favorable à la création d'un foyer national juif en Palestine. Il veut aussi sauvegarder les intérêts des populations locales. Ce sont les prémices de la solution à deux États. Entre deux guerres, la population juive d'Europe est la cible du régime nazi. Une persécution qui culmine avec la Shoah. 6 millions de juifs, hommes, femmes et enfants vont être assassinés avec méthode, comme un processus industriel.